Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour
Merci
Valérie.
Merci d'être là. On va recevoir Stone qui nous chantera peut-être, poussera peut-être la chansonnette. Je sais que Patrick Roger est fan et il m'a envoyé un petit message en me disant super, voilà, je révèle l'intimité de Sud Radio. Je crois qu'il doit regretter de ne pas pouvoir la voir. Mais bref, Stone sera avec nous pour un double best-of. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler sécurité routière à la veille de ce grand week-end. Il va y avoir pas mal de monde sur les routes, même si on ne peut pas se déplacer à plus de 100 km, je vous le rappelle. On va également parler de vacances pas chères avec Départ Demain, une application qui permettait de partir pour pas très cher. Et son patron, qui est un grand spécialiste, Michel-Yves Labbé, du voyage dégriffé, va nous en dire un petit peu plus sur les possibilités en France de voyager pas trop cher. Et puis un créateur, un designer qui vit un rêve éveillé avec une création que
géniale.
Tous les restaurateurs s'arrachent. On vous en dira plus à 10h30. Alors le carton, c'est pour Harry Potter, vous en doutez. 6 510 000 téléspectateurs, près de 30% de part de marché. C'était Harry Potter et le prince de sang mêlé. C'est un peu moins que la semaine dernière, mais ça reste quand même un carton. Hein.
Ce qui prendra la suite après toute cette saga sera la saga du Seigneur des Anneaux qui prendra la suite. Donc ça
Très
risque
bien.
Aussi de bien cartonner.
On a Christine en ligne avec nous qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Christine.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Bonjour. Comment ça va?
Oh, ça va bien, merci.
Vous déconfinez un peu?
J'étais pas confinée, donc...
Comment ça, vous étiez pas confinée?
Eh bien, quand il faut travailler, il faut travailler.
D'accord. Vous avez fait partie des gens qui ont travaillé. Qu'est-ce que vous avez regardé à la télévision hier?
Alors, j'ai regardé Tandem.
Oui.
C'est efficace. Voilà, c'est efficace, c'est bien joué. J'aime bien les acteurs qui sont dedans.
Et voilà.
Donc, je dirais que c'est une valeur sûre.
Ouais. Harry Potter, non, c'était pas pour vous.
Ah, pas du tout. Toutes ces sagas, non, je les laisse. Non, j'ai besoin d'autre chose. Et j'ai bien apprécié d'ailleurs le film romantique 20 ans de
plus.
Ah
oui,
là,
lundi, oui.
Voilà.
Ouais,
il n'y a pas
sympa.
Assez de films comme ça. Les Américains, ils osent faire ce genre de film. Et nous, je trouve que c'est trop timide. Et je l'aurais bien dit à Philippe Lelouch.
Oui, ah bon, écoutez,
il y a
oui.
Mouchoirs, quand même.
Comment?
Il y a les petits mouchoirs quand même.
Mais tout à fait. Mais c'est vrai que ces films.
Il n'y en a pas assez.
Il n'y en a pas assez. On a besoin de rêver. J'ai 54 ans, mais je rêve encore. Ouais. Je suis désolée.
Vous avez raison. C'est un film. C'est vrai que c'était. En tout cas, le film de lundi était. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film aussi. Et vous n'avez pas eu envie de regarder Philippe Lelouch hier alors?
Eh bien, écoutez, j'ai zappé un petit moment pour le voir parce qu'il est exceptionnel. Voilà.
Ouais,
donc j'avoue que j'ai glissé un œil. Mais j'étais sur Tandem. Mais quand même la curiosité parce que il est super bien.
Ouais.
Oui, voilà. C'est je le trouve très positif. C'est très sympa. Et puis oser l'autodérision, c'est bien. C'est très très bien. Et votre invité, la Stone, là, ça me fait penser au Carpentier, Daniel Gilbert et toute cette époque où c'était formidable.
Justement, il y aura une émission des Carpentiers vendredi soir. L'âge d'or des variétés des Carpentiers. Donc, vous allez passer une bonne soirée vendredi sur France 3. Voilà. Merci, Christine, de nous avoir, appelé. Alors, Tandem, ça a pas mal marché. C'est arrivé en deuxième position. 5 505 000 téléspectateurs, 21% de part d'audience. C'est une série qui une valeur sûre, comme disait Christine. Troisième position pour M6 avec la pièce de théâtre L'Invitation, dans laquelle jouait Philippe Lelouch, qu'on recevait hier. Et puis, le flop, c'est pour Cash Investigation. 1 374 000 téléspectateurs, 5,8% d'audience, égalité homme-femme, balance ton salaire. C'est dommage parce que c'était vraiment bien fait et ça disait quand même des choses assez terribles sur l'égalité salariale. Moi, j'avais un coup de gueule pour le film, pour l'hommage rendu par France Télévisions à Michel Piccoli, Vincent, François, Paul et les autres, diffusé à 23h20. Franchement, c'est, pardon d'être grossière, mais c'est du foutage de gueule. On aurait pu le mettre en prime time à 20h, à 21h sur France 5. C'est vraiment, vraiment dommage. Ça a rassemblé 401 000 téléspectateurs. Je pense que c'est pas représentatif du public qui aurait pu ou voulu voir ce film. Donc, Delphine Ernotte a fait un tweet en disant le mépris, etc. Les films rendant hommage à Michel Piccoli, quand on veut rendre un vrai hommage, ben on met ses films en prime time. Voilà. J'ai trouvé ça assez, assez minable à 23h20. Non, vous pensez pas, Gilles, vous n'êtes pas d'accord?
Si, mais je pense que c'était compliqué de bouger la grille avec Cache Investigation, mais la solution de France 5, c'était compliqué aussi, puisque il y avait une émission, vous savez, sur médical et en direct. Donc peut-être France 3 et France 4 étaient la solution.
Bah, mais attendre, oui, c'est ça. Quand on veut, on peut, et puis on peut attendre peut-être 24 heures à ce moment-là pour voir. Rémi Pernelem signale que sur C8, qui avait programmé Espion lève-toi, ça n'a pas tellement fonctionné, 319 000, mais c'est vrai que ce n'était pas non plus un des films les plus emblématiques de Piccoli. Ouais. Puis surtout, ça n'a pas été annoncé, donc ce n'est pas toujours évident. Voilà. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie, une lueur d'espoir sur la quête du Graal, vous savez, la quête du vaccin. Une société américaine, Moderna, hier a occupé la une des journaux. Elle aurait des résultats encourageants. Une enquête du journal de 13h de France 2.
C'est l'un des tout premiers vaccins contre le coronavirus testé chez l'homme. Mis au point par Moderna, une société de biotechnologie américaine dirigée par un Français, il a montré des premiers résultats chez 8 volontaires.
Nous avons pu en effet, avec ce vaccin, induire une réponse immunitaire chez tous ceux qui l'ont reçu. Et cette réponse a généré le type d'anticorps que l'on espérait, des anticorps capables de neutraliser le virus.
Bon, je pense que ça, la recherche du vaccin, ça va faire l'actualité dans tous les mois qui viennent. Il y a un autre espoir, celui d'Hélène François, qui a 103 ans, Valérie, est ressortie guérie du Covid-19. Et vous allez voir que de toute façon, elle ne comptait pas se laisser faire, mamie.
Médecins, infirmières, kinés, ils sont tous venus l'accompagner pour sa sortie d'hôpital. Cette patiente centenaire, contaminée par le Covid-19, est guérie.
J'avais envie de guérir. Je voulais en sortir. Je ne suis pas maître de ma maladie. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire... C'est venu, c'est reparti. Dieu soit béni. J'ai failli pas revenir. Je suis une dure à cuire.
Voilà, 103 ans, elle est une dure à cuire.
Mais il y a pas mal de personnes âgées qui se sont sorties du Covid. Hein, voilà, à noter cela. Allez-y.
Je reste dans ma thématique de l'espoir. L'espoir se tourne aussi vers le professeur Raoul, mais il est de plus en plus décrié, comme l'a fait hier Axel Kahn, chercheur et président de la Ligue contre le cancer. C'était dans C'est à vous. Et pour lui, même si le professeur Raoul est pour lui un grand chercheur, il conteste ses méthodes et son éthique.
J'ai aucune hostilité contre Didier Raoul. Et simplement, savoir si ce qu'il préconise marche ou pas, eh ben, il faut essayer et puis il faut en tirer les conséquences. Mais comment voulez-vous faire signer une pétition pour dire « ça marche, il faut que ça marche, il y a une mobilisation ». Mais c'est quelque chose qui est inimaginable dans le domaine simplement de l'hésitation. Quant à l'efficacité d'un traitement, ben, il faut être d'une extrême humilité.
Si Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé une aide européenne de 500 milliards d'euros, dans les faits, rien n'est fait. Hier, dans Quotidien, Pascal Boniface, qui dirige un institut stratégique, a fait la liste des pays qui s'y opposent.
C'est un plan franco-allemand, mais il faut qu'il soit accédé par les 27, les Pays-Bas en tout premier lieu. C'est certainement l'un des pays les plus hostiles à l'augmentation des dépenses. La Suède également est très hostile, ainsi que l'Autriche. Ce sont des pays dont l'économie se porte bien et qui, comme très souvent, disent qu'ils n'ont pas à payer pour les cigales qui ont chanté tout l'été.
Pas gagné hein, cette histoire, Valérie. Hein. Ouais. Hier, non. Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue, une fronde au sein de La République En Marche. En effet, certains députés sont allés rejoindre un nouveau parti. L'un d'eux, Cédric Villani, a été poursuivi par un journaliste de Quotidien pour savoir s'il était un traître. Il a répondu.
Des frondeurs ?
Nous ne sommes pas des frondeurs. Frondeur, c'est quelqu'un qui reste à l'intérieur et qui, sans arrêt,
fait de l'obstruction. Ici, il n'y a aucune démarche de fronde, il y a une démarche de liberté.
Vous êtes un traître ?
Je ne suis pas un traître, je suis un homme libre et responsable, et c'est bien le mandat qu'on m'a confié quand on m'a élu.
Oui, sauf que vous avez été élu avec l'étiquette Macron. Et là, vous dites qu'il n'est pas super.
Est-ce que j'ai dit ça, moi ?
Voilà, c'était le journaliste Pierre Larouturou de Quotidien. Et donc, petit à petit, avec le déconfinement, c'est la reprise du travail, Valérie. Comme pour les tribunaux, mais pour l'avocat Bertrand Perrier, c'est difficile de rendre la justice lorsqu'on est masqué.
Proposer de plaider avec des masques, ce qui est évidemment très compliqué pour nous, à la fois pour se faire entendre des juges, mais aussi pour lire sur le visage des juges leur réaction pendant complète, parce que eux seraient masqués aussi. Et donc, on a une interaction qui est rendue beaucoup plus délicate, parce que quand on plaide, on essaye de trouver dans les mimiques du juge aussi quelque chose qui va orienter notre plaidoirie. Ça peut être une moue approbatrice ou désapprobatrice, un sourire, un froncement de sourcil, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins avec les magistrats, qui sont masqués, si aussi nous le sommes.
Ça a posé un certain nombre
de... Tout va passer par le regard maintenant.
De questions, absolument. Écoutez. Bonjour Stone.
Bonjour.
Comment ça va?
Eh bien, tout va bien, merci. Tout va très bien. Grand soleil, je suis sur ma terrasse, dans le jardin, donc on ne peut pas être mieux.
Donc, vous avez été parmi ces privilégiés qui ont pu avoir un petit peu d'air et de soleil pendant ce confinement. Vous l'avez vécu
tout
comment, vous, ce confinement?
En fait, moi, j'étais déjà à la campagne déjà depuis un mois avant le confinement, parce que je passe beaucoup de temps dans l'Allier, là, dans ma maison familiale. Donc, pour moi, c'est une continuité. Il n'y a pas... pratiquement aucun changement, quoi. Ça s'est très bien passé. J'ai eu mes enfants qui m'ont rejoint, donc toute la famille réunie. Et puis, tout va bien, quoi. Il n'y a aucun problème.
Tout va bien. Alors, on va parler de ce double best-of, 50 titres en version 100% originale, pour la première fois en CD. Comment ça se fait que ça sorte que maintenant, avec la carrière que vous avez? Vous avez démarré en solo en 66.
Oui,
il était
ça.
Temps.
Oui, c'est vrai, mais en fait, on doit vraiment tout ça à l'équipe de Marianne Mélodie, qui a fait un travail exceptionnel, surtout Mathieu Moulin, qui a été très efficace, parce que c'était un boulot de titan de réussir à rassembler tous ces titres qui remontent à calendre grec. Hein. Donc, il fallait aussi, il y avait l'histoire de contrat, de droit d'auteur, enfin, plein de choses très, très rébarbatives à régler, et ils s'en sont occupés, et moi, j'en étais bien incapable. Donc, tout a été pris en main vraiment au mieux. Et grâce à ça, l'anthologie, si on peut dire, a pu sortir.
Alors, il faut savoir, Valérie, moi, j'ai écouté l'album, j'ai découvert des chansons, mais incroyables. Oui, et j'ai surtout découvert que Stone avait une énorme carrière sans Chardin. Et je voulais savoir, est-ce que finalement, vous êtes heureuse de cette carrière avec Éric Chardin, ou ça vous a coupé dans l'élan de votre propre carrière?
Ah non, pas du tout. Non, je suis extrêmement heureuse de ma carrière avec Éric, parce que c'est là qu'on a explosé, entre guillemets. Ça a été le gros succès à deux. Faut reconnaître que seul, c'était tout à fait beaucoup moins, disons, brillant, quoi. C'était sympathique. Éric, de son côté, faisait aussi une carrière en solo. Mais c'est vrai que dès l'instant où on a pu, mêler nos voix et faire les chansons qu'on a faites, ça a été, on est passé, disons, à la vitesse supérieure, quoi. Voilà.
Oui, Valérie, vous voulez
écouter une chanson de
Stone.
Absolument.
Alors, une fille et un garçon, ça va vous rappeler une publicité.
Est-ce une fille ou un garçon? Oui, tout à fait.
Ouais. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question que j'entends toujours.
Voilà. Avec ce son caractéristique des années 70. Hein.
Oui, tout à fait. Ça a été même la chanson d'une publicité, c'est ça?
Oui, c'est les publicitaires qui ont repris cette chanson pour une célèbre maison de chaussures. Oui, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que j'avais travaillé pour eux, moi, dans ma jeunesse. C'est ça qui est drôle, comme quoi. Hein, j'avais travaillé un an dans cette même boîte. C'est drôle.
Et est-ce que vous aviez... Il y a des chansons que vous aviez oubliées ou vous vous souveniez de tout?
Ah oui, non, il y en avait que j'avais totalement oubliées. C'était... Il y avait, je n'ai même plus commencé, je connaissais même pas le texte ni rien, quoi. C'était, non, c'est pas des chansons. Surtout qu'à l'époque, il y avait 4 titres par disque. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Et puis qu'on en sortait au moins 3 ou 4 par an. Alors ça fait beaucoup, beaucoup de chansons, quoi. Donc certaines, évidemment, les phases B, les quatrièmes phases B étaient un peu passées aux oubliettes, quoi. Oh, j'ai ma bête. Bon.
Ah, vous avez un chien qui aboie.
Je lui lance la balle, alors il me ramène la balle et il veut que je lui relance.
Voilà, c'est sûr que faire les deux trucs en même temps, c'est pas évident. Vendredi soir, on l'évoquait, France 3 va diffuser l'âge d'or des variétés, les Carpentiers. Vous en avez fait partie de cet âge d'or.
Oui, bien sûr. Ah oui, on a participé plusieurs fois au Carpentier. J'ai notamment, Claude François m'avait invité dans son émission. On avait chanté, on avait fait un medley de ses succès et des miens, tous les deux. Alors ça, c'est des choses des images qui sont repassées de nombreuses fois. Oui.
Et alors, comment ils étaient les Carpentiers? Est-ce qu'ils étaient méchants, rigoureux,
rigoureux, certes. Oui, rigoureux, très rigoureux, mais très sympathiques en même temps, très bienveillants, très à l'écoute des artistes. Ah non, c'était des gens à l'ancienne, on peut dire, qui étaient... Il y avait un côté papa-maman, un peu, c'était ça, quoi. Donc, évidemment, on était chouchoutés, et c'était des conditions exceptionnelles de travail.
Qui sont vos fans aujourd'hui? Qui est-ce qui vient vous voir? Vous avez gardé des contacts justement avec des gens qui vous suivaient depuis vos débuts?
Ah oui, complètement, oui. J'ai beaucoup de gens que maintenant qu'on finit par connaître et finit par sympathiser avec depuis le temps, et qui datent, ça remonte à 50 ans, mais j'ai encore pas mal de fans, entre guillemets, qui sont même plus des fans, qui sont des amis, avec qui on a toujours des contacts et qui viennent sur les spectacles, avec qui on s'appelle, on s'envoie du courrier, enfin voilà, quoi. C'est formidable parce qu'en même temps, on est de la même génération. Donc, faut considérer qu'on a énormément de chance de pouvoir être en forme et continuer à apprécier tout ça, passer un certain âge, disons, quoi, c'est ça. Ouais.
On écoute un petit extrait encore.
D'accord.
Okay. Billy Stone. Une paire de souliers qui faisait au moins 3 fois mon pied. J'avais l'air d'un vieil anglais. C'est pourquoi on m'a surnommé.
Ça sonne très très yéyé, effectivement. Hein.
C'est, c'était l'époque.
C'était l'époque, mais c'est sympa, effectivement. Ça rappelle, ça rappelle des souvenirs et un son, une sonorité qui est très différente. Hein.
Mais c'était que des chansons originales d'Éric Chardin. On a fait quelques adaptations parce que la maison de disques voulait ça, mais Eric tenait absolument à composer les musiques de mes chansons, pas des miennes, que des miennes, d'autres aussi, et c'est lui qui a tout pris en main et qui a écrit toutes ces chansons. Ouais.
D'accord. On se quitte avec une dernière chanson. Allez.
Avec plaisir.
Allez. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. La guerre, je sais, tu veux la raconter, mais dis encore, qu'as-tu rapporté? Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, des Normandies, une mare avec voilà. Des canards. Voilà, je pense que ça fait danser dans les chaumières, comme on dit.
Souhaitons-le.
Bon, écoutez, on vous retrouve donc avec ce double best-of 50 titres version 100% originale pour la première fois en CD. Toute votre carrière, on était ravis de vous avoir, Stone.
C'est gentil, moi aussi.
Et puis, je ne sais pas si vous êtes si vous serez dans l'émission de France 3, en tout cas pour ceux qui aimaient cette période. L'âge d'or des variétés, les Carpentiers, ce sera vendredi soir à 21h05 sur France 3. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Portez-vous
Valérie,
bien.
Merci Merci à toute l'équipe.
Merci.
À bientôt.
Allez, à bientôt. Merci. Vous avez la pêche. Ça fait plaisir à entendre. Hein, Gilles, elle est super en forme. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant avec des gens, des Français qui sont créatifs, qui ont des idées. Et vous allez voir, ce designer vit un rêve tout éveillé. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va parler vacances pas chères, on va parler sécurité routière et puis surtout, on va parler créativité, inventivité avec Christophe Gernigon. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour, vous êtes créateur, designer, vous concevez des objets, des meubles de design depuis de nombreuses années. Je crois même que vous êtes normand et que vous étiez très content d'entendre Made in Normandie, c'est vrai?
Oui, oui, je l'embrasse, j'embrasse tout parce que c'est un peu l'hymne de la famille, on est vraiment Made in Normandie, donc voilà.
Voilà, donc racontez-nous un petit peu ce rêve éveillé que vous êtes en train de vivre pendant, vous êtes comme de nombreux créateurs, vous vous êtes penché sur l'après confinement, sur la complexité pour les restaurateurs d'ouvrir, et vous avez imaginé un concept qui s'appelle Plex Eat, Plex P-E-L-X parce que c'est plexi, et Eat comme manger. Alors expliquez-nous déjà ce que c'est.
Alors déjà, le rêve éveillé, j'aurais bien voulu le vivre autrement que dans ces circonstances.
Bien sûr.
En fait, le Plex Eat, c'est une idée, c'est un... pour expliquer aux auditeurs, c'est un
oui,
peu
à la
un...
radio, c'est pas facile.
Voilà.
Il faut aller voir sur votre site, mais vous l'avez peut-être vu à la télévision parce que vous êtes passé à peu près partout. On a vu cette image. Alors essayez de nous le décrire pour la radio, effectivement. Alors,
en fait, c'est un peu entre la bulle, la cloche. C'est un peu un abat-jour. Et en fait, ça tient par le haut, par un fil, sur un cercle. Et on appose sur ce cercle, en fait, une visière XXL. Mais cette visière XXL, au lieu d'être un tube, pour éviter que les gens soient un peu enfermés dans ce tube, en fait, j'ai découpé l'arrière avec des belles courbes pour que les gens puissent glisser tranquillement vers la table. Voilà, c'est ça l'idée.
Oui, c'est très beau. C'est très beau. Ça fait comme une cloche, mais c'est une cloche qui est ouverte vers l'extérieur et qui donc permet de se voir et d'être autour d'une table. Et alors, comment vous est venue cette idée? Est-ce qu'on imagine le designer la nuit en train de réfléchir ou c'est venu tout seul? Comment ça travaille un designer justement?
Pour ma part, c'est exactement ça. C'est la nuit. C'est après avoir pris des choses du quotidien et j'ai dû voir un reportage sur les restaurateurs. J'ai aussi des amis restaurateurs qui me disaient c'est compliqué, ça fait 2 mois que voilà, on tire la langue un peu. C'est donc et en réfléchissant, il faut peut-être faire quelque chose. Et je suis allé voir un peu sur les réseaux sociaux, sur Internet, et je suis tombé sur des parois qui ressemblaient plus à des parloirs de prison. Donc aller manger au Beaumet, pas trop. Donc voilà, je me suis dit qu'il faut vraiment penser quelque chose. Et m'est venue une idée. On était en Thaïlande, à Bangkok, il y a 5-6 ans, et j'avais vu un petit concept store avec des grandes coupoles, avec des fauteuils en dessous, et en fait, on pouvait s'asseoir et écouter la musique en dessous, individuellement, comme ça. Et j'avais trouvé ça, j'ai tout de suite voulu essayer, hein, j'ai tout de suite voulu me précipiter pour essayer ce concept. Et puis, voilà, je suis parti de ça, j'ai dit, mais bon, c'était une grande coupole, faut que les gens soient protégés, faut que ça prenne pas beaucoup de place, parce que, voilà, je veux que ça se détache facilement pour que les restaurateurs puissent les nettoyer facilement. Et donc, de ces petits croquis-là, j'ai envoyé ça à 2-3 amis restaurateurs qui, dans les 15 minutes, m'ont répondu tout de suite, m'ont dit, mais ton idée, génial, et puis dépose-la, et puis essaye de la produire, parce que, alors, j'ai dit, mais non, aujourd'hui, c'est qu'à l'état d'idée, c'est un projet, j'aimerais pas voir jour, j'aimerais que ça... que tout aille mieux, quoi, en fait. Et le restaurateur, son exemple plus probant m'a dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai 120 couverts, avec les restrictions, je peux ouvrir que 60 couverts. Avec ta coupole, avec ton plexite, je peux monter ma capacité à 80-90 couverts. Et là, à 60 couverts, je n'ouvre pas parce que je perds de l'argent. Ouais. Et à 80-90 couverts, j'ouvre l'argent. J'ouvre le restaurant. Ouais. Donc voilà, ça c'était un... Et donc, voilà. On a décidé
et
de
ça, ça a été le, ça a été, oui, Gilles.
Oui, moi, c'est que je trouve que c'est ludique, en fait. Vous parliez des plexis qui faisaient très prison. Mais là, il y a une expérience. C'est-à-dire qu'on est tous
c'est
sous cloche.
Et
voilà, il y a quelque chose comme ça où c'est une vraie expérience de vivre ça. On s'entend bien avec le plexi, quand même.
Oui, parce qu'en fait, le haut est libre. Il n'y a pas de plexi sur le haut, donc ça passe assez bien. Alors, on va tester tout ça, mais on a déjà testé un peu avec des parois comme ça autour de nous, et ça on entendait bien. Ça allait.
Ça allait. Et d'un point de vue sanitaire, vous avez posé la question à des médecins. Vous avez regardé si effectivement c'était sûr et sans danger.
Alors aujourd'hui, c'est l'industriel qui regarde tout ça, parce qu'à l'époque, c'était quel état de projet. Et avec quand je l'ai lancé sur les réseaux sociaux, il y a eu un engouement. Et là, on s'est dit, quand j'avais des demandes du monde entier pour me dire je l'achète, combien c'est, ou voilà. Donc je me suis dit, il va falloir peut-être un petit peu réfléchir à ça. Et donc j'ai mis ça dans les mains d'un industriel français, parce que j'avais plusieurs aussi industriels qui m'avaient contacté. Et puis je voulais rester sur le Made in France. Cet industriel, voilà, on travaille, et lui aussi a mis ça avec des médecins. Voilà, j'en saurai plus dans l'après-midi, parce qu'on a un rendez-vous cette fois-ci très important, qui est le rendez-vous prototype, et pour pouvoir lancer tout ça.
Ça coûte cher de s'équiper de votre invention?
Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire un prix exact, parce que l'inconvénient, c'est que le plexiglas est
en rupture. C'est très demandé en ce moment.
Voilà. Ouais. Donc, on essaye de travailler sur une solution pour avoir plusieurs épaisseurs, etc. Voilà. L'industriel a vraiment réfléchi à ça pour qu'on puisse répondre facilement aux gens. Et donc, le prix aujourd'hui est flou par rapport aux demandes. Donc, voilà, c'est un peu compliqué.
Quand je parlais de rêve, enfin en tout cas c'est vrai, vous avez évoqué les réseaux sociaux. Il y a eu votre création a été diffusée énormément, et suite à cela vous avez eu des appels du monde entier. C'est en cela que je trouve que c'est assez formidable ce qui vous arrive.
Oui, c'est le monde entier. Ça va de Nouvelle-Zélande à l'Argentine, au Pérou, par le Canada. Hier, un Texan qui m'a envoyé en gros « Appelez-moi rapidement, j'en ai besoin ». Vous voyez, j'ai trouvé ça. Ouais. Et les médias aussi, les médias, beaucoup de médias étrangers comme le Japon, l'Italie, l'Espagne. Ouais, hier, je répondais à une interview pour le Brésil. Voilà, des choses un peu... En fait, depuis, j'ai un petit planning et j'ai au moins 10 interviews par jour avec des médias étrangers, quoi.
C'est génial. C'est génial. Oui. Et puis, c'est vraiment très beau. Enfin, l'image, j'encourage tout le monde à aller voir sur les réseaux sociaux. C'est une création artistique. Vous avez raison de dire, quand on voit les solutions qui sont évoquées avec des séparations en plexi, des choses comme ça, c'est pas beau. Alors que là, c'est vraiment beau. Après, ça va être, comme le disait Gilles, une expérience. Donc, et puis, la réalisation, là, vous êtes quand même au point compliqué, où il va falloir voir comment exploiter ça, comment réaliser ce projet.
Et ça a été vraiment réfléchi, comme est la base du design, on sait bien que le design, les objets doivent se plier au quotidien. J'ai vraiment pensé où la bière se retire facilement pour les restaurateurs, pour qu'eux puissent faire un deuxième service rapidement et qu'on puisse se glisser et que prendre le moins de place possible. C'est vrai que cette bière, en se retirant facilement, on la nettoie et en 5 minutes, on nettoie la table. Voilà, c'est vraiment été pensé pour que les restaurateurs facilitent la vie des restaurateurs et qu'ils puissent faire deux, trois services, voilà, et que tout le monde puisse aller au restaurant. C'est vrai, on est sous un plexi, c'est vrai qu'on est sous une cloche, mais voilà, comme moi, je me suis précipité en Thaïlande pour me mettre en dessous pour écouter la musique, aidons les restaurateurs, et essayons, je me dis, positivement, j'espère que dans 3 mois, 6 mois, on en rira et on dira, j'ai été aidé les restaurateurs en me glissant sous une cloche et en allant manger avec mes amis en trinquant sur le plexi, vous voyez, au lieu de trinquer
sans danger,
ensemble, on trinquera sur le plexi.
Et ce qui est drôle,
j'espère,
Valérie,
qu'on aura l'occasion. Oui, Gilles.
Voilà, et ce qui est drôle pour finir, c'est que l'invention de Christophe est aussi détournée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le demandent, par exemple, pour des salles de réunion, vous savez, où on est 5-10 dans les réunions, et que pour les conseils d'administration, on peut les imaginer sous cloche. Il y a plein d'endroits aussi. Je crois que vous avez plein mal de gens qui vous ont appelé pour d'autres, pas simplement pour les restaurants.
par exemple, j'ai une dame de Trombridge qui m'a appelé et qui me dit, moi, j'ai une chaîne de bijouterie. Et l'inconvénient avec ces parois et que c'est juste des petits trous dans la paroi, on peut pas passer les bagues et être très liquide, etc. Ouais. Elle me dit, moi, un derrière le comptoir, un devant pour la cliente, même un juste ouais. un derrière le comptoir, voilà, j'ai accès je peux lui mettre la bague facilement, on peut, voilà, je n'avais pas du tout pensé à ça.
Il y aura d'autres utilisations effectivement que celles des restaurants. Bah écoutez, on vous souhaite bonne chance, Christophe Gernigon. On peut aller sur internet, on tape votre nom, Christophe Gernigon, GERNIGON.com, pour voir votre invention, votre création, parce que c'est une création, mais c'est aussi une invention. Merci à vous d'avoir été sur Sud Radio, et puis bah, vous nous tiendrez au courant de l'avancement de tout cela. Merci à vous, oui. Merci Gilles. Long week-end qui s'annonce, le retour sur les routes de nombreux automobilistes. Anne Lavaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'association Prévention Routière. Je voulais faire un point avec vous sur la période de confinement. On a vu que évidemment il y avait moins de voitures, donc il y a eu moins de morts sur les routes, mais il y a quand même eu des morts. Ça n'a pas baissé peut-être comme ça aurait dû le faire. Quels enseignements vous avez tirés, vous, de cette période de confinement, déjà, avant de parler de ce prochain week-end?
Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Hein. Les chiffres du mois d'avril, qui finalement était le seul mois plein de déconfinement, sont assez éloquents, puisque on a eu une baisse de trafic qui a été mesurée très sérieusement par le CEREMA, qui démontre que certains jours, on avait moins 90% de trafic. Et le cœur du confinement, hein, du 24 mars au 18 avril, on a eu en moyenne moins 72% du trafic. Alors ça, cette baisse du trafic, depuis le déconfinement, elle remonte énormément, parce que j'ai regardé les chiffres pour hier, et hier, on était à moins 17% de trafic par rapport à un trafic moyen. Alors, ouais. Par rapport à l'accidentalité, c'est vrai que sur le mois d'avril, on pouvait s'attendre, théoriquement, ouais. à une baisse de la mortalité ouais. qui soit proportionnée, en tout cas, à la baisse du trafic. Or, on a une baisse des accidents qui est proportionnée, puisqu'on a moins 74%. Ouais. On a une baisse du nombre de blessés proportionnés aussi. Mais alors là, en ce qui concerne le nombre de tués, on a moins 55,8% du nombre de tués. Donc ça veut dire que sur ce mois d'avril, eh bien, on a eu des accidents qui étaient beaucoup plus graves, beaucoup plus mortels, puisqu'on n'est pas proportionné à la baisse du trafic.
Et ça, vous l'expliquez par la vitesse, vraisemblablement.
Alors, quand on regarde les chiffres qui nous sont communiqués tous les mois, on voit que, en fait, sur ce mois d'avril, la mortalité des automobilistes est en baisse, mais moins que la moyenne, et la mortalité des 18-34 ans est en baisse, mais moins que la moyenne. Donc, en faisant vraiment une analyse à gros traits, on peut considérer que ce sont effectivement les automobilistes qui ont eu des comportements dangereux lorsqu'ils prenaient le volant.
Comment est-ce que vous appréhendez ce week-end qui commence demain, week-end de l'Ascension, même si, je le rappelle, on ne peut pas se déplacer à plus de 100 km de chez soi. Comment est-ce que vous l'appréhendez et est-ce que les comportements de ce que vous avez pu observer, il y a une forme de relâchement?
Alors, ce qui est sûr, c'est que Bison Futé doit être complètement perturbé là, parce que du coup, j'ai regardé que Bison Futé nous prévoyait pour l'année dernière. Donc l'année dernière, mercredi soir, donc ce soir et jeudi, c'était toute la France était rouge, et dimanche, toute la France était rouge. Et là, Bison Futé, il ne peut pas dire ça, parce que effectivement, ce qui va se passer sans aucun doute, c'est que avec ce périmètre de 100 km autour de votre domicile, on va avoir affaire à un éclatement du nombre de déplacements, et bien sûr avec des temps de déplacement qui sont très différents des temps de déplacement habituels. Donc le pont de l'Ascension 2020 ne ressemble en rien à tous les ponts de l'Ascension qu'on a connus et qui, vous avez tout à fait raison, nécessitaient de rappeler un certain nombre de bonnes pratiques. Donc là, éclatement du nombre de déplacements, donc il y a fort à parier quand même qu'autour, surtout autour des grandes métropoles, hein, où on a été confinés pendant des semaines et des semaines et où l'occasion de pouvoir sortir est appréciée, il y a fort à parier qu'il va y avoir du trafic. mais on va avoir des trajets qui vont être beaucoup plus courts. Hein, ouais. Donc, ça veut dire que toutes les mesures de sécurité qui concernent, vous savez, cette fameuse pause qu'il faut faire régulièrement pour pas s'endormir au volant. Néanmoins, il y a quelque chose qui reste et qui vraiment, il faut vraiment comprendre ça. C'est un prérequis quasiment du français au volant. C'est que nous sommes stressés au volant. Il y a à peu près un tiers des Français qui sont stressés au volant, et ce stress est encore plus fort dans les métropoles. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce stress, il demeure, et il est peut-être même renforcé par la période qu'on vient de vivre, pendant laquelle finalement on se sera pas déplacé, on n'aura peut-être pas pris sa voiture, on n'aura peut-être pas sorti sa moto. Or là, il va faire beau, donc on va peut-être sortir sa moto. On aura perdu quelque part un peu les réflexes du quotidien par rapport à la conduite. Et ça ne peut qu'accentuer le stress. Donc vraiment, il n'y a qu'un seul conseil, c'est de prendre ces journées comme des journées de bonheur, essayer d'en profiter un maximum, essayer de se déstresser au volant, de ne pas rouler vite, et de prendre ce déplacement comme une vacance.
Oui, mais vous savez, enfin, c'est pas à vous que je vais dire ça, le mauvais conducteur, c'est l'autre, et on est persuadé que le risque ne vient pas de nous, mais de celui qui est à côté. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y avait un comportement très agressif depuis le déconfinement, des voitures qui roulent plus vite en ville, des gens qui ne laissent pas passer les piétons. Enfin, il y a une sorte de frénésie. Enfin, c'est un sentiment, hein, c'est totalement empirique, mais ce sentiment un petit peu d'excitation à retrouver la route, effectivement.
Alors, il y a peut-être ce sentiment d'excitation à retrouver la mobilité, plus que la route, c'est peut-être de pouvoir...
Oui, c'est la mobilité.
La mobilité. Et puis, il y a eu aussi, de la part de ceux qui ont continué à se déplacer, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont continué à aller travailler, beaucoup de gens qui, malgré tout, ont continué à se déplacer, mais il y a eu une perte de repères. Il y a une perte de repère parce que, et là je prends mon cas personnel, moi j'ai continué à aller 2 jours par semaine au bureau, à pied, c'est vrai que marcher dans Paris tôt le matin à pied, eh bien il n'y avait pas grand monde, voire personne, et donc vous perdez en fait les repères qui sont vos repères habituels, où on s'arrête, on attend que le petit bonhomme soit vert, on traverse, etc., etc., et je pense que cette perte de repères, elle rajoute au changement de comportement au moment du déconfinement, et elle peut être un facteur de stress supplémentaire ou de mauvaise pratique au moment du retour à la mobilité.
Un mot rapidement sur le télétravail. Vous aviez, avec votre association, mené une enquête, une étude sur le bénéfice du télétravail par rapport au nombre de vies épargnées sur la route. J'imagine que vous êtes favorable à ce télétravail.
Alors effectivement, il y a quelques mois, on avait travaillé sur ce sujet-là en essayant d'estimer quel serait le nombre de vies sauvées si la moitié des 23 millions de Français qui travaillent ne faisaient ne serait-ce qu'une journée de télétravail par semaine. Et on en était arrivé à la conclusion que on pouvait envisager qu'il y a une soixantaine de vies qui soient épargnées chaque année. Et donc on avait vraiment commencé à travailler très sérieusement sur ce sujet, en déplorant que, en réalité, aujourd'hui, cette pratique, enfin quand je dis aujourd'hui, avant le Covid-19, cette pratique restait relativement rare. Il y a fort à parier quand même que pour ce sujet-là, les mentalités et les comportements ont changé, et notre association ne peut qu'en s'en réjouir.
Merci beaucoup Anne Lavaux, donc déléguée générale de l'association Prévention Routière. Soyez prudents sur les routes, faites attention, même s'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, ne soyez pas tentés par la vitesse. De toute façon, je crois que les radars ont repris leur activité, et on vous rappelle la limite des 100 km autour de votre domicile pour la possibilité de se déplacer. Merci beaucoup Anne Lavaux. Dans un instant, on sera avec Michel-Yves Labbé, PDG de Départ Demain, pour parler du tourisme en France, de la manière dont le tourisme a été impacté par cette crise du coronavirus. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est en ligne avec Michel-Yves Labbé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Départ Demain. Je peux dire que vous êtes un des meilleurs connaisseurs du voyage. La dernière minute, c'est votre truc. C'est ce que vous dites dans votre newsletter. C'est votre business. Vous avez créé l'une des premières agences qui proposait des voyages dégriffés. Départ Demain, c'était... expliquez-nous, vous allez le faire mieux que moi. Allez-y, est-ce que vous proposiez des voyages dégriffés ?
Oui, le départ demain, c'est de la dernière minute. C'est-à-dire que à partir de 21 jours avant le jour de départ, on vous propose des offres. Et puis les meilleurs, en tout cas, qu'on sélectionne, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Et à 10 jours du départ, on solde les invendus des voyagistes. Donc là... au travers de ventes flash qui ont lieu chaque mardi et chaque jeudi, en temps normal. Mais évidemment, tout ça, c'est
en temps normal, ben oui, tout ça a été un gros bouleversement pour vous. Déjà, comment ça s'est passé ? Vous aviez des clients qui étaient en voyage, j'imagine, quand il y a eu le déconfinement, quand il y a eu le confinement ?
Oui, bien sûr, oui, on en a eu, il a fallu les rapatrier. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, je signale que tous ceux qui étaient partis avec un voyagiste ont été rapatriés, sauf que ça leur coûte un sou. Alors que tous ceux qui étaient partis tout seuls ont galéré et ça a coûté et de l'argent à eux et de l'argent à l'État. Mais on a fait ça, oui. Et puis après, ensuite de quoi, on a fermé la boutique. Bon, pour Départ Demain, c'est pas très compliqué en ce sens que moi, j'avais bâti une société très low cost, hein, donc on a très peu de frais fixes. Le télétravail, on connaît ça depuis le début. Donc on a des frais que ponctuels. Si on vend, on a des frais, mais si on vend pas, on n'a pas de frais. Donc là-dessus, c'est pas un très gros souci. Et puis, en attendant, eh bien, on a mis en place, fait travailler un peu un informaticien et une de mes collaboratrices sur la France, de manière à avoir, à partir de la fin du mois de mai, d'avoir des produits France à vendre, et il y en aura. Et puis, maintenant, on attend l'ouverture internationale.
Oui, international ou même à l'intérieur de Schengen, peut-être dans un premier temps. Donc ça implique quand même que vous allez vous adapter parce que du tour opérateur ou des voyages que vous pouviez vendre qui étaient dégriffés sur des séjours, sur des semaines charter dans des hôtels, il y en avait partout aux quatre coins du monde. Mais la France, c'est peut-être plus compliqué, non ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer ?
Alors la France, on en proposait déjà, on proposait des mobilhomes. Dans des campings, 4 et 5 étoiles, et puis on va proposer des résidences.
Des résidences, voilà. Et il y aura il y aura des soldes, il y aura du dégriffé à votre avis ?
Oui, certainement, parce qu'il n'y a pas d'étrangers qui vont venir, ou très peu. Donc il va manquer 9 millions de touristes étrangers. Donc même si les Français se précipitent sur la France, ça va faire quand même un gros trou. Donc oui, j'ai pas de souci là-dessus. En plus, les fournisseurs savent que nous, on est très bons pour ça, pour la dernière minute. Donc quand il en reste, ils nous appellent et ils nous les donnent.
Ils viendront vers vous pour vous proposer ça. Vous avez déjà des idées de ce que vous allez pouvoir proposer dans le genre de tarifs ?
Non, les tarifs, j'ai pas encore d'idées, non, parce que de toute façon, ça dépend. Ça dépend de la qualité des produits, hein, ça dépend de ce que vous prenez, et ainsi de suite. Non, j'ai pas du tout. J'ai des idées, enfin, j'ai déjà des tarifs, mais je sais qu'ils sont discountés, mais de combien par rapport au prix normal, et ainsi de suite. Pour l'instant, je pense que tout le monde est un peu dans le flou. Tout le monde attend le 2 juin et de savoir ce qui va se passer. Par contre, ce que je suis sûr, j'ai déjà des contacts avec des amis hôteliers grecs. Je sais que, par exemple, des hôtels de luxe en Grèce vont dégriffer de manière considérable. Il va y avoir des bonnes affaires, il va y avoir des aubaines. Et nous, chez Départ Demain, on a une clientèle de gens qui cherchent des bonnes affaires, qui cherchent des aubaines. Et ça, ils vont en trouver, y compris en juillet-août, et surtout en juillet-août, ce qui est quand même plus rare que les autres années.
Beaucoup plus rare que les autres
années. Les autres années, c'était en mai-juin, voilà. Alors, les vols vont peut-être pas baisser.
Mais les séjours et les hôtels sont moins chers.
Oui, beaucoup. Et puis, à l'hôtel, on y reste 7 jours ou 14 jours. Donc, s'il y a une baisse sur le prix de la nuitée, elle est multipliée par 7 ou par 14. Donc là, je n'ai pas vraiment de soucis là-dessus. Je sais qu'on aura des bonnes affaires.
Le conseil, c'est d'attendre ?
Oui, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'attendre puisqu'on ne sait pas ce qu'on aura le droit de faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la France vient de donner ses prévisions... de vol, et à partir du 15 juin, voire du 26 juin, ils ont des vols sur la Grèce, ils ont des vols sur un certain nombre de destinations qui sont des destinations soleil. Le Portugal a déjà plus ou moins rouvert,
Et je vous dis, les Grecs, ils ont eu très peu de coronavirus, hein. Ils ont 400 décès dans tout le pays. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus, c'est parti. L'île Maurice n'a plus du tout de cas depuis 20 jours. Il y a tout un tas de destinations comme ça qui se portent très bien et qui sont prêtes à accueillir, qui seront prêtes à accueillir les voyageurs français.
Oui, un mot sur, alors on n'est pas Madame Irma, vous non plus, mais sur l'impact sur le tourisme que va avoir cette crise. Est-ce que vous pensez que les gens vont avoir peur de voyager ou au contraire vont avoir envie de sortir? C'est peut-être difficile à dire. Puis il va y avoir beaucoup de faillites aussi, certainement.
Bah, des faillites, c'est pas très grave pour le consommateur puisque tout le monde est assuré. On a l'association de professionnels de solidarité qui couvre donc le consommateur, même si son agence fait faillite, c'est une autre agence qui l'emmènera dans les mêmes conditions. Après, que les gens aient peur de voyager, je ne sais pas. Moi, j'ai pris l'avion hier pour la première fois depuis 2 mois entre Nice et Paris. Moi, j'ai trouvé ça très sécurisant. On prend votre température, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de fiévreux dans l'avion. Vous mettez votre masque. Et l'atmosphère des avions, vous savez, elle est changée toutes les 3 minutes. Moi, à mon avis, c'est beaucoup plus sain l'atmosphère d'un avion que l'atmosphère d'un TGV, sans parler du métro, évidemment. Donc, je vois pas pourquoi on aurait peur de partir. C'est tout à fait subjectif, cette histoire-là. Au contraire, moi, je trouve que l'avion, moi, ça m'a rassuré hier, toutes ces mesures avant de prendre le vol. Et c'est bien fait, le toit aussi.
Donc, fin mai, choix de logement en France a pris des griffés sur votre site Départ Demain.
Début juin.
Oui, il faut attendre le. Puis il y aura peut-être effectivement d'autres pays qui vont s'ouvrir. Sur le Maghreb, on n'a pas d'informations particulières pour l'instant pour ceux qui vont en Tunisie, au Maroc et autres.
Les Tunisiens n'ont pas la possibilité de recevoir des touristes. Hein,
pas pour l'instant.
Mais en tout cas, il y aura, de toute façon, il y aura des affaires à faire sur le bassin méditerranéen, hein, ça c'est sûr.
Bon, bah écoutez, on a entendu votre message, donc on pourra trouver des vacances pas chères. Votre site, Michel-Yves Labbé, s'appelle Départ Demain, c'est une application également. Merci à vous, merci beaucoup, portez-vous bien. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. On va parler, on va parler emploi, évidemment, puisqu'on voit qu'il y a des licenciements, il y a des plans sociaux qui se profilent. À tout de suite avec vous sur Sud Radio.